Alors c'est le dernier, non, l'avant-dernier jour de l'année. Demain matin, nous en serons à notre dernière bénédiction matinale de 2020, puisque celle de vendredi sera déjà en 2021. Alors on va prier, puisqu'on a pris un peu de retard avec la problématique technique. Et après ça, on lit le texte qui est le nôtre pour ce mois-ci. Une dernière petite chose. Voilà. D'accord. Alors, allons-y. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour la parole que tu as pour nous aujourd'hui. Une parole que nous savons d'avance préparée pour notre bien, pour notre croissance et pour notre quête, Seigneur, d'une maturité auprès de toi. Nous prions, Seigneur, qu'effectivement tu puisses répandre ta grâce sur nous, que tu ouvres notre entendement et que tu nous permettes de saisir pleinement ta parole. J'appelle la bénédiction, Seigneur, sur tous ceux qui se joignent à nous en ce moment même et ceux qui nous écouteront en différé. Que ta grâce et que ta bénédiction restent et demeurent sur chacun d'eux. Parle-nous, ne retiens point. Nous sommes des serviteurs aux pieds de leur maître, en quête simplement, Seigneur, d'instruction et de directive de ta part. Alors merci de prendre ce temps avec nous, Seigneur. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bonjour et désolé de ce petit délai, de ce petit contretemps technique. Je lis pour vous dans Psaume au chapitre 91, le verset qu'on va relire en toute fin de cette initiale lecture sera le verset 15 qui va nous servir de réflexion pour aujourd'hui. Dans la Bible nous dit dans le Psaume 91, Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Je répète pour chacun de nous le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. 5 éléments qu'on va voir aujourd'hui dans cette semaine bien spéciale. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs thématiques qui m'étaient très chères, que nous allions partager tout au long de cette semaine. Probablement un mot important, très important dans ma vie personnelle, dans ma relation avec Dieu, le terme kara, Q-A-R-A. Je répète, kara, Q-A-R-A, qui veut dire invoquer. Il m'invoquera et je lui répondrai. Donc, kara veut dire appeler, veut dire crier, veut dire proclamer, veut dire nommer quelqu'un, passer à faire la nomination de quelqu'un dans un poste, inviter, prêcher, et je tiens l'autre définition de kara pour la suite. Ce qu'on comprend ici lorsque David s'adresse à son peuple, lorsque David s'adresse à ses lecteurs par l'inspiration, bien entendu, du Saint-Esprit, c'est que lorsque nous voulons que Dieu nous réponde, lorsque nous voulons qu'il soit avec nous dans la détresse, lorsque nous voulons qu'il nous délivre et qu'il nous glorifie, il y a un ingrédient important à la chose, le fait d'invoquer l'Éternel, d'invoquer Dieu. Et invoquer est un terme tout à fait technique, à la fois juridique, mais aussi dans un aspect qu'on va voir dans quelques instants, qui est aussi dans un aspect très factuel. Donc, au niveau technique et juridique, lorsqu'on invoque, c'est qu'on prend un article de loi, on prend une partie de la Constitution, de la charte qui nous régit, et on se place sous la protection de cet article-là. Encore faut-il être capable d'identifier le bon article, encore faut-il savoir s'il n'y a pas des exclusions à cette loi et tout ça, mais lorsqu'on parle tout simplement du Code civil de Dieu, permettez-moi cette image un peu plus légale par rapport à la parole de Dieu, mais lorsqu'on décide d'invoquer Dieu, ce qu'on fait, c'est que on dit, voici, je me place sous la protection de Dieu. Mais lorsqu'on se place sous la protection d'une loi, dans ce cas-ci la loi de Dieu, ce qu'on prend aussi comme engagement, c'est que non seulement je veux que cette loi me protège, mais pour qu'elle me protège, je dois aussi vivre sous les régulations, sous les directives et sous les exigences de cette même loi. On a cet article de loi américain que très souvent les gens invoquent et ils disent invoquer tel précepte ou telle partie du droit américain en disant je crois que c'est le cinquième amendement de la charte ou de la constitution américaine qui dit on ne peut pas s'incriminer soi-même devant la cour. Et par conséquent, parce que je ne veux pas m'incriminer par moi-même, je veux donc garder le silence. Lorsque le juge te demande de répondre, tu peux invoquer ce cinquième amendement de la Constitution américaine qui fait que tu n'es pas obligé de répondre, tu peux te soustraire. Mais cette chose-là, elle demeure sur toi tant que tu vis en accord avec la Constitution. Mais si tu enfreins les règles de la Constitution, alors cet amendement-là que tu as invoqué est rendu caduc pour toi. Donc en partie pour nous, ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement Dieu veut être notre protection, Dieu veut nous répondre, Dieu veut être avec nous dans la détresse, Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous glorifier, en autant que nous restons effectivement sous le parapluie de la loi divine, sous le parapluie de cette protection que nous avons invoquée sur notre vie. Si je m'en distance, si je l'abandonne, si j'enfreins cette même règle, par conséquent, je ne suis plus sous la protection de cet article que j'avais mentionné. La partie qui est très intéressante pour moi, on le retrouve dans certaines traductions. Lorsqu'on va utiliser le terme kara, en hébreu, parfois dans certaines traductions, on va le représenter avec une image très très forte. Le terme kara va être illustré par le cri d'une bête. Et quand je parle du cri d'une bête, je ne parle pas de l'aboiement d'un chien. L'aboiement, c'est pas un cri. À quelques reprises, il est arrivé à notre Néma de crier. Surtout quand ça faisait peu de temps qu'on l'avait et j'avais de trop gros pieds pour ses petites pattes à elle et il m'arrivait à l'occasion lorsqu'on la promenait de marcher sur sa patte et là on l'entendait crier. C'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose de strident, c'est quelque chose qui vient du plus profond des tripes. C'est issu par la douleur, c'est provoqué par une crainte, une terreur très forte, un animal qui crie autrement que le son habituel. Un chien aboie, un chat miaule, mais lorsque le chien et le chat se mettent à crier, c'est qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et là, l'idée d'invoquer, c'était qu'on puisse se tourner vers Dieu en exprimant tout ce que nous avons à l'intérieur. Et je peux vous assurer que lorsque vous parlez au Seigneur de cette manière et lorsque vous découvrez cette relation avec Dieu, dépourvu de tout flafla, dépourvu de tous les rimes qu'on essaie de mettre dans nos prières, on essaie de châtier les mots pour s'assurer que notre français, notre espagnol ou la langue dans laquelle on s'adresse au Seigneur est la plus correcte, la plus belle et tout ça. Lorsqu'on arrive dans la notion d'invoquer, on arrive dans ce cri qui vient du plus profond de l'âme et qu'on tourne vers Dieu. C'est un peu comme si je suis affligé d'un des plus grands malheurs qui arrivent et on se tourne vers Dieu. Je vous ai déjà parlé d'un ami pasteur qui est passé par un moment très difficile. Il est arrivé face à une scène terrible en rentrant chez lui et il a dit au Seigneur, Seigneur, tu vas devoir m'aider parce que je vais virer fou. Et c'est cette idée-là où on se tourne vers le Seigneur comme notre seul et unique réconfort, mais on crie vers lui avec tout ce qu'on a. Le matin où j'ai dit à Daphné de venir prier avec moi le lendemain du diagnostic de cancer, j'ai écrit à Daphné parce qu'on n'échangeait pas de mots, parce qu'on était sans mots et on ne savait pas quoi dire. J'ai échangé par texto avec Daphné et je lui ai dit, reviens dans la chambre, on va prier parce que sinon on va devenir dingue. Dingue, ce n'est pas un terme que j'utilise usuellement. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment le fond de ma pensée. Si on ne prie pas, si on ne se tourne pas vers le Seigneur, on va juste virer fou en bon québécois. Et invoquer Dieu, c'est donc se tourner vers le Seigneur avec cette liberté totale. J'aimerais te dire, c'est vrai qu'on aime être un peu poétique devant le Seigneur. On aime lui offrir le meilleur de ce qu'on a. Alors très régulièrement, le meilleur de ce qu'on a est fait avec des mots un peu plus châtiés, avec des mots un peu plus recherchés, avec des rimes à la fin de nos phrases, avec un certain rythme dans le débit de notre prière, avec un certain ton qu'on utilise. Quand on arrive dans cette phase ou dans ce moment où on invoque Dieu comme le cri d'une bête, ce que ça a par rapport à toutes les autres prières qu'on a faites auparavant, c'est qu'il y a une sincérité des plus profondes, il y a une véracité dans ce moment-là, et j'aimerais te dire que Dieu ne se soucie pas dans ce moment-là de comment sonnent les choses, de comment riment les choses. Ce qu'il apprécie, c'est que dans ce moment intense de douleur, dans ce moment intense de frayeur, la personne vers qui tu t'es tourné, c'est lui. C'est un peu comme quand quelqu'un a un grave problème et qu'il fait appel à toi. La plupart du temps, lorsque tu comprends le désarroi de cette personne, tu t'en sens honoré d'avoir été appelé à la rescousse. Très souvent, lorsque les gens me contactent en me disant j'ai quelque chose de difficile à te raconter, j'aimerais me confier et puis j'ai senti de te dire à toi. La plupart du temps, j'explique aux gens comment c'est un honneur pour moi en tant que serviteur de Dieu d'être l'oreille pour la confession de ces gens, d'être la personne qu'ils aient appelée à la rescousse pour un tel moment. C'est la même chose qu'on provoque chez Dieu lorsqu'on crie à lui, dépourvu de tout le flafla de nos prières habituelles, et on crie à lui tel qu'un chien qui a été blessé, tel qu'un chat à qui on aurait, sur qui on aurait marché sur la queue ou quoi que ce soit, on crie vers Dieu comme un animal. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais le jour où tu vas l'expérimenter, tu vas savoir la différence entre les prières usuelles et ce fait d'invoquer Dieu. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Le terme répondre, le terme anach, A-N-A-H, anach, A-N-A-H. je lui répondrai. Ce qui est donc intéressant, c'est que Dieu veut te répondre. Il y a des gens qui parlent à Dieu et ils ont cette question qui reste au fond de leur esprit, à savoir, mais est-ce que Dieu est vraiment intéressé par ce que j'ai à lui dire? Non seulement la semaine dernière, on te disait, tu as ta place dans le corps de Christ, mais j'aimerais te dire que tu as l'oreille de Dieu, attentive à tes prières. Il n'y a pas une prière qui sort de ta bouche qui n'est pas importante pour Dieu. Et lorsque cette prière est faite comme le cri d'un animal, Dieu effectivement a toute son empathie, toute sa grâce, tout son amour et toute sa compassion et toute sa passion à ton égard dans ces moments difficiles. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Si effectivement on crie vers Dieu comme notre seule ressource, comme notre seul bien, comme notre seul protecteur, comme notre seule option qui nous reste, lorsqu'on crie avec Dieu avec toute la force de notre âme et toute la vigueur de notre cœur, Dieu répond. Dieu veut te répondre. Alors ne laisse pas les mensonges de l'ennemi te dire autrement. Dieu veut te répondre. Mais répondre, le terme anar, veut aussi dire témoigner en faveur de quelqu'un. On a vu tout à l'heure, le terme kara est un terme juridique. C'est le terme que tu utilises lorsque tu es en cour et tu dis j'invoque tel amendement de la loi pour ne pas m'incriminer moi-même, je me protège sous tel article de la loi. Dieu, en conséquence, vient témoigner en ta faveur. Donc Dieu veut parler en bien à ton sujet. Lorsque le diable vient t'accuser, lorsque le diable veut parler contre toi, lorsque le diable veut porter atteinte à ta renommée, à ta réputation, à ta personne, rappelle-toi que tu as un avocat qui agit en ta faveur auprès du Seigneur. Dans ce tribunal, dans cette joute juridique qui se joue entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, où le diable vient, qui est l'accusateur des frères, il vient t'accuser. Notre avocat, celui qui est mort pour toi, celui qui a donné délibérément sa vie pour te sauver, s'approche de son père et dit, moi, j'ai payé le prix pour le rachat de cet homme, j'ai payé le prix pour le rachat de cette femme, et toute condamnation a été levée à cause du prix que j'ai payé en faveur de cet homme et de cette femme. Donc Dieu veut témoigner en ta faveur. Dieu veut parler en ta faveur. Ton Seigneur veut te bonifier dans cette joute juridique qui se joue dans les lieux célestes. Et juste pour faire une contrepartie au cri de la bête Kara, lorsqu'on parle de Anar, on parle aussi de crier. Ça veut donc dire que toi, tu as crié comme une bête vers Dieu, tu as crié comme une bête effrayée, une bête apeurée, une bête blessée vers son Seigneur, et ce Seigneur te répond aussi avec un cri. Et très souvent, lorsque je parle de cette notion, je dis lorsque toi, tu cries vers le Seigneur comme le cri d'une bête, lui, il te répond avec le rugissement du lion de Juda, avec le rugissement du Dieu Tout-Puissant. Notre Seigneur, lorsque tu cries vers lui, il te répond encore plus fort. Notre Seigneur, lorsque tu cries à lui, il te répond encore plus fort pour que toute terreur qui viendrait te menacer, pour que tout ennemi qui voudrait s'attaquer à toi, simplement au bruit du rugissement du lion de Juda, cet ennemi sache que on ne touche pas à cet homme, on ne touche pas à cette femme. Donc le Seigneur est à côté de toi, il campe à tes côtés, le lion de Juda rugit en ta faveur. Il dit non seulement je lui répondrai, mais je serai avec lui dans la détresse. Un autre point qui m'est à mes yeux très important. S'il dit qu'il va être avec toi dans la détresse, ça veut donc dire que Dieu n'a pas promis, contrairement à l'évangile rose qu'on a décrié hier, contrairement à l'évangile de la prospérité qu'on a essayé de démonter à plusieurs reprises, Dieu ne te promet pas l'absence d'adversité. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, malgré mon statut royal, puisque je suis enfant de Dieu, je peux passer par des moments de détresse. Le grand désarroi de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils viennent à l'Évangile avec cette pensée qu'il n'y aura plus de trouble. Ils viennent à l'Évangile, ils viennent à Christ en pensant que maintenant que je suis arrivé à Christ, je vais devenir riche, je vais être en bonne santé, je vais prospérer dans toutes mes voies, je n'aurai pas de moments difficiles. Ce n'est pas biblique. Nulle part dans la parole de Dieu, on nous présente un tel évangile. Pensez simplement au roi David qui dit, il ne me manquera rien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et les gens s'arrêtent là en pensant qu'effectivement nous devons vivre constamment, de façon permanente, dans un vert pâturage et près des eaux paisibles. Mais à un moment donné, l'eau peut venir à tarir. À un moment donné, je peux avoir mangé toute l'herbe de ce pâturage. Il me faut donc, conduit par mon berger, me rendre dans une autre prairie, me rendre dans un autre pâturage. Et ce chemin entre un pâturage et l'autre passe parfois par ce que David va déclarer être la vallée de l'ombre de la mort. La vallée est simplement un passage entre deux pâturages. Mais il faut que cette notion soit comprise, sinon beaucoup de chrétiens se frustrent, beaucoup de chrétiens disent qu'on ne leur a pas présenté les vraies choses, beaucoup de chrétiens vont dire, de nouveaux croyants surtout, vont dire, « Hey, on m'a menti, il semblait que tout devait aller bien. » La Bible te dit, Dieu te dit, « Je serai avec lui dans la détresse. » Ça veut donc dire que la détresse peut arriver. Dieu n'a pas promis que la détresse ne viendrait pas. Dieu a promis toutefois, je serai avec lui dans la détresse. Ça veut donc dire que Dieu ne te fait la promesse que peu importe où tu passes, que peu importe quelle est l'ardeur même de cette détresse et de cette adversité, Dieu promet d'être avec toi dans l'épreuve. Cette notion de savoir Dieu à mes côtés était tellement importante pour moi durant tout ce temps de maladie. Je vous disais, je sens la présence de Dieu comme jamais auparavant. Alors que je passais par ma vallée de l'ombre de la mort, alors que je regardais ou j'étais capable de regarder la mort droit dans les yeux, j'avais pas cette crainte, j'avais pas cette terreur, parce que je savais, je pouvais ressentir, j'expérimentais comme jamais auparavant la présence même de Dieu. Dieu ne m'a pas promis de ne pas être malade. Dieu m'a promis que si j'étais malade, il serait à mon chevet. Dieu ne m'a pas promis de ne pas être en guerre, de ne pas être dans un combat, mais il m'a assuré que si je montais dans le ring, il serait dans mon coin. Dieu ne m'a pas promis que les flèches n'allaient pas m'attaquer, que l'ennemi n'allait pas m'attaquer, mais il m'a promis que peu importe qui serait mon ennemi et qui se présenterait contre moi, lui serait à mes côtés. Non seulement il m'entoure par devant, par derrière, sur les côtés, par-dessus, par en dessous, il m'environne. Dieu me promet, Dieu te promet d'être avec toi dans l'épreuve. Il ne te fera pas faux bond dans l'épreuve. Il ne te posera pas un lapin, comme on dit en France. Il va être avec toi pendant tout le temps du parcours, d'autant plus lorsque tu passes dans ces moments de détresse. Puisqu'il m'invoque, je lui répondrai. Donc je veux lui parler. Puisqu'il m'invoque, je serai avec lui dans la détresse. Puisqu'il m'invoque, en fait, pour terminer avec la détresse, si Dieu promet d'être avec toi dans la détresse, s'il promet d'être avec toi dans l'adversité, c'est donc que Dieu ne laissera pas sa place face à qui que ce soit. Il n'y a pas un ennemi qui l'impressionne. Il n'y a pas un ennemi qui le terrorise. Il n'y a pas un ennemi qui le fait trembler. Et même si cet ennemi, c'était l'ensemble de tous les ennemis de l'Éternel qui se liguaient en un seul moment, en un seul temps, contre toi ou contre moi, Dieu se tiendrait encore à tes côtés. Parce que ne pas se tenir à tes côtés, ça serait aller à l'encontre même de la nature de grâce, d'amour, de passion de Dieu envers toi. Donc Dieu est avec toi, il ne laisse pas sa place face à quelque ennemi que ce soit. Notre Dieu nous dit aussi, s'il m'invoque, je le délivrerai. Dieu veut donc te rendre libre. Dieu veut te délivrer. Mais ça veut dire que à un moment donné, ça se peut que tu vois les chaînes se poser sur tes mains, que ça veut dire que peut-être que tu auras un boulet au pied, mais tu ne peux pas expérimenter la délivrance de Dieu sans un moment où tu as craint l'enchaînement. Tu ne peux pas expérimenter la délivrance de Dieu qui se présente sous la forme d'un ange à Pierre et à Jean qui ont été battus et qui ont été jetés en prison, à moins que tu n'aies été enchaîné et mis en prison. Ils ont expérimenté la délivrance de Dieu parce qu'ils étaient en prison. Paul et Silas ont expérimenté le tremblement de terre qui les délivre de leurs chaînes et qui les amène chez le geôlier, mais ils n'auraient pas expérimenté ça s'ils n'avaient pas connu l'adversité et un temps d'emprisonnement. Donc, pour connaître la délivrance de Dieu, il nous faut aussi expérimenter ce temps d'enchaînement, ce temps où on est lié. Il y a des moments, effectivement, où Paul, où Jésus même va dire à Pierre, un jour viendra où on te liera et on t'amènera là où tu ne veux pas aller. Donc, et on parlait de la mort de Pierre. Est-ce que ça a été un échec, la mort de Pierre? Est-ce que Pierre qui meurt sous les chaînes, c'est un échec? Non! Si Pierre meurt en élevant le nom de son Dieu, c'est pas un échec. Lorsque vous regardez Hébreux 11, qui est probablement un des chapitres qui m'est le plus précieux, surtout dans la fin du chapitre, où on aborde une thématique qui m'est tellement chère, celle de l'Église persécutée. On nous dit que certains d'entre eux ont été sciés, que certains d'entre eux ont été écartelés, qu'on les a brûlés, on dit qu'on les a mis à mort. On dit que certains d'entre eux ont refusé une délivrance ici-bas sur terre. Et la Bible nous dit d'eux, le verset le plus, la phrase la plus merveilleuse qui soit dite à un homme sur cette terre. On dit « eux dont le monde n'était pas digne ». Ça veut dire que ces gens-là sont tellement glorieux aux yeux de Dieu que lorsque le Seigneur les regarde, il dit « cette terre-là que j'ai créée, cette terre-là sur laquelle ils ont vécu, cette terre-là sur laquelle ils ont marché, n'était même pas digne de les recevoir ». Ils étaient tellement glorieux aux yeux de Dieu alors qu'ils n'ont pas connu la délivrance, alors qu'ils n'ont pas connu cette délivrance que nous, on appellerait ben, « Seigneur, venge-toi de nous, Seigneur, tombe sur ces armées adverses ». Non, ils ont accepté la tribulation, les menant jusqu'à la mort, et Dieu va dire d'eux que la terre même n'était pas digne de les recevoir. Le témoignage le plus glorieux que Dieu pourrait dire à un serviteur comme toi et un serviteur comme moi. Donc oui, Dieu va nous délivrer. Comment va-t-il le faire? Peut-être pas de la manière qu'on espère, peut-être pas de la manière que cet évangile rose voudrait le proclamer en disant que Dieu guérit toutes les maladies. Dieu guérit toutes les maladies. Il ne guérit pas tous les malades. Il y a une différence dans ce verset-là. On dit, oui, mais le Seigneur a dit qu'il guérissait toutes les maladies. C'est vrai, il a le pouvoir et l'autorité de guérir toutes les maladies. Mais ce n'est pas parce qu'il guérit toutes les maladies qu'il guérit nécessairement tous les malades. Il y a des hommes et des femmes qui vont à la rencontre de Dieu à travers la maladie. Des hommes et des femmes intègres. Je crois que c'est Ésaïe ou... Il y a un des prophètes, il faudrait que je le cherche, mais il y a un des prophètes où on va nous dire qu'il est mort suite à sa maladie. Et c'était un prophète qui était agréable aux yeux de Dieu, un prophète qui avait la bénédiction de Dieu. Et combien d'entre nous avons connu des hommes et des femmes de Dieu qui étaient intègres jusqu'à leur dernier souffle et qui ont quand même été amenés dans l'éternité à travers la maladie. Dieu guérit toutes les maladies. Mais Dieu ne guérit pas tous les malades. Parfois, il prend ce malade Moi, je me suis demandé régulièrement, mais pourquoi, Seigneur, tu voulais que je passe à travers ce cancer? Pourquoi tu voulais que je passe à travers cette maladie? C'est avec le temps, avec le recul, que je me rends compte de ce que cette maladie a changé, a modifié, a apporté comme transformation chez moi. Donc parfois, Dieu permet qu'on passe par ces situations pour nous transformer. Et à d'autres occasions, Dieu ne te guérit pas et il t'amène dans l'éternité avec lui par le moyen de la maladie. Donc ne comprenons pas la délivrance de Dieu dans son simple, dans sa simple définition de tout doit aller bien pour celui qui craint Dieu. Tout finit bien, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut donc dire que la finalité de ta vie est parfaite. Moi, si j'étais mort avec le cancer, ben je me retrouvais dans la présence de Dieu. Je me retrouvais pour l'éternité en présence de mon Sauveur. Paul va dire, il m'est un gain de mourir, mais à cause de vous, il est préférable que je reste. Donc Dieu avait encore des choses à faire avec Paul et qui le gardait ici-bas. Mais Paul disait, moi j'ai compris qu'entre rester ici-bas sur terre ou partir dans l'éternité, pour moi, ça serait bien mieux d'être là-bas. Mais en raison de vous, en raison de l'Église, il est préférable que je reste ici-bas sur terre. Dieu sait ce qu'il fait. Alors faisons-lui confiance. Il trouvera un moyen pour nous délivrer, pour nous équiper. Quand on parle du terme délivrer, c'est le terme chalats, 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 qui veut dire effectivement libérer, mais qui veut dire aussi armer, préparer, faire grossir, qui veut dire renforcer. Donc Dieu te prépare aussi pour passer à travers les adversaires. Pensez à David. La délivrance de Dieu s'est passée avec ce caillou qui, de façon miraculeuse, est rentré dans le casque de Goliath et qui l'a affaissé. Humainement parlant, c'est illogique. Dieu a appuyé sur le caillou et il l'a enfoncé au plus profond avec son pouce. Il l'a enfoncé dans la tête de Goliath. Mais David a été préparé pour Goliath avec le lion, avec l'ours, dans le pâturage, ce qui a fait qu'il a expérimenté Dieu, et le jour où il s'est présenté devant Goliath, il était l'homme de la situation, il était l'homme de Dieu pour faire face à Goliath. Toutes ces situations que tu traverses aujourd'hui te préparent à des événements encore plus glorieux pour demain. Dieu t'équipe, Dieu te forme, Dieu te renforcit pour les événements de demain. Dernier point, il m'invoquera et je le glorifierai. Il m'invoquera. Je vais boire juste une gorgée. Il m'invoquera et je le glorifierai. Première chose, ça veut donc dire que Dieu veut t'honorer. Ça veut donc dire que Dieu veut te glorifier. Ça veut donc dire que Dieu veut être en admiration devant toi. C'est son désir. Dieu veut regarder son champion dans le ring puis dire, c'est mon gars. Dieu veut voir la championne sur le terrain du combat et dire, c'est ma championne. Je l'ai préparée, je l'ai formée, je l'ai équipée et regardez comment elle performe. Dieu veut se réjouir de te voir agir à son égard. Dieu veut se réjouir du combat que tu mènes et de la victoire que tu remportes et de la manière dont tu combats le combat qui est le tien. Dieu veut prendre gloire, Dieu veut t'élever. Pensez à Job. Regardez l'histoire de Job. On nous dit que le diable vient de se promener partout. Il vient à la rencontre de Dieu. Et là, Dieu lui dit, As-tu vu mon serviteur Job? Il ne s'en trouve aucun comme lui, intègre comme lui, sur toute la surface de la terre. Donc Dieu est en train de glorifier Job, à un tel point où on dirait que Dieu est incapable de se taire à propos de Job. Dieu est tellement impressionné, Dieu est tellement réjoui, Dieu est tellement honoré par la vie de Job qu'il ne peut pas se taire à propos de Job. Et il va élever Job. Parce qu'il sait quel type d'homme cet homme Job est. Est-ce que Dieu peut faire la même chose avec toi? Est-ce que Dieu peut te glorifier? Est-ce que tu peux amener Dieu à un tel état où il ne peut pas s'empêcher de parler de toi? Ou en fin de compte, Dieu garde une grosse réserve quand ça te concerne. Dieu veut te glorifier. Donc Dieu veut te rendre honneur. La pensée de glorifier, c'est un terme qu'on a utilisé il y a 2 ou 3 semaines lorsqu'on parlait de la balance, d'en honorer Dieu. Le terme kabad, Kabad. Et c'était rendre lourd. Et cette image de la balance où on disait à propos de Dieu, lorsqu'on honore Dieu, on le rend plus lourd sur cette balance que quoi que ce soit d'autre. Dieu veut faire la même chose avec toi. Il veut te mettre sur la balance et il veut que tu sois lourd. C'est une pensée récurrente dans la parole de Dieu. Rappelons-nous du fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, non, c'est pas Belshazzar, le roi. Le fils, c'est entre Nebuchadnezzar et Darius. Il y a un roi qui est le fils de Nebuchadnezzar et il va avoir un songe. Un songe avec une main qui écrit sur le mur. Et personne n'est capable d'interpréter ce songe. Et Daniel est appelé et Daniel va interpréter le songe. Et le songe ou la vision qu'ils viennent de voir, la main qui a laissé une inscription sur le mur, c'est Dieu qui est en train de dire, je t'ai pesé de nouveau et j'ai vu que tu ne pesais pas lourd. Ce n'est pas un verdict qu'on a envie d'entendre sur notre vie. J'ai pas envie d'entendre Dieu qui me dit, Florent, tu ne pèses pas lourd. J'ai envie que ma vie pèse lourd devant Dieu. J'ai envie que dans la balance divine, lorsqu'il me met dans la balance, que je puisse effectivement être lourd. Dieu veut te rendre lourd. Mais glorifier veut aussi dire rendre capable, rendre apte à une chose. Ça veut dire que Dieu veut te renforcer jusqu'à un point où tu en es inébranlable. Mais tout ça vient tout d'abord d'un tout premier élément qui est celui d'invoquer Dieu, se placer sous la couverture de Dieu. Se placer sous la protection de Dieu comme notre seul, notre unique espoir, notre seul, notre unique protection. Avoir ce moment où j'en viens à une communion avec Dieu qui est dépourvue de tous les flafla poétiques qu'on a habituellement dans notre culte, où c'est le plus sincère qui sort de moi en disant « Seigneur, je ne peux rien ». Seigneur, je n'ai personne d'autre. Seigneur, je n'ai que toi. Ce n'est que vers toi que je peux crier. C'est plus une simple connaissance intellectuelle avec des mots sans poids, sans sentiment qui sort, mais ça vient du plus profond de tes tripes. Et chacun d'entre vous, je vous le souhaite. C'est une expérience transformatrice. C'est une expérience, oui, qui se fait à travers les larmes et à travers la douleur. Oui, ça se fait à travers des moments qui sont particulièrement pénibles. Mais ce qu'on en ressort, ce qu'on en récolte de ce moment précis où je me tourne vers Dieu et je l'invoque comme le cri d'une bête, ce qui en ressort est une vie transformée. Est une relation transformée avec Dieu. Et lorsqu'on est passé par là, il nous répond. Il est avec nous dans la détresse. Il nous délivre et il nous glorifie. Tu ne pèseras pas lourd devant Dieu si tu ne passes pas par la case invoquer Dieu. Alors, comme vous avez pu constater, c'était des éléments qui m'étaient très, très chers encore aujourd'hui. On va se retrouver demain pour une autre bénédiction matinale, jeudi 31 décembre. On va juste prier pour conclure ce matin, après quoi on vous donne quelques recommandations pour la journée et puis les rendez-vous de demain. Alors permettez-moi de prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui, je souhaite, Seigneur, apporterait une révolution dans la vie de ma sœur et de mon frère, pour l'avoir moi-même vécu, pour l'avoir moi-même expérimenté. Ces moments, Seigneur, où on crie vers toi, sachant que tu es le seul, l'unique. Ce moment, Seigneur, où on ne peut plus se débrouiller par soi-même, où on n'a ni les forces, ni les capacités, Seigneur, de se débrouiller par soi-même. Et on en vient, Seigneur, à un abandon total, à un lâcher-prise total devant toi. Je sais, Seigneur, que c'est comme ça qu'on t'invoque réellement. Je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère qui entendent ces paroles aujourd'hui, lorsqu'ils passeront par ce moment précis dans lequel, Seigneur, ils devraient t'invoquer, je prie, Seigneur, que les paroles de ce matin puissent revenir à leurs pensées, qu'ils ne soient point dans le désarroi, mais qu'ils soient dans cette attitude, Seigneur, tu m'amènes dans une nouvelle dimension. Seigneur, tu m'amènes dans une nouvelle phase dans ma relation avec toi. Afin, Seigneur, qu'ils découvrent combien tu veux leur répondre, combien tu es avec eux même dans ce moment de détresse, combien tu veux les délivrer et combien, Seigneur, tu fais en sorte qu'ils pèsent lourd dorénavant dans la balance. Alors je prie, Seigneur, qu'effectivement, nous puissions tous et chacun expérimenter le kara, invoquer ton nom sur nos vies. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin, que ta présence se fasse palpable à leur côté et que la réalité de cette parole qui a été prononcée ce matin vienne s'enraciner dans leurs pensées. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. Simplement vous rappeler notre rendez-vous demain, donc dernière bénédiction de 2020. Demain matin, 8h30, on espère que toute la technique fonctionnera sans pépin demain. De surcroît cela, on a rendez-vous demain en toute fin de soirée. Demain, on est le 31 décembre, donc à 23h15, 23h15, 11h15 le soir. On va se réunir pour un temps de Sainte-Cène et un temps de prière de bénédiction. Donc, j'ai vraiment à cœur de prier pour vous, d'appeler la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Donc, on vous invite à prendre part à la Sainte-Cène. Vous savez que c'est réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est pas tout simplement un acte frivole qu'on peut poser. Ça prend d'être dans un état particulier. Donc, un, d'être un enfant de Dieu. Deux, de ne pas avoir quoi que ce soit contre nos frères et nos sœurs, d'être en règle devant Dieu. Donc, on vous invite non seulement parce qu'on va prendre la Sainte-Cène demain, mais aussi parce que ça serait mieux de finir l'année de cette manière-là. Si vous avez quelqu'un à qui vous devez pardonner, ben lâchez le grief, pardonnez. On ne peut pas participer à la Sainte-Cène si on a quelque chose contre quelqu'un. Et je tiens à spécifier, les gens pensent que quand quelqu'un est mort, on n'a plus à lui pardonner. Le pardon n'implique pas la personne qui est en face de toi ou la personne qui t'a offensé. Le pardon, ça t'implique toi et Dieu. Donc le pardon doit se faire tant envers ceux qui t'ont offensé et qui sont encore vivants, tout comme envers ceux qui t'auraient blessé et qui ne sont plus de ce monde. Donc, si tu n'es pas capable de pardonner même à cette personne qui aurait quitté ce monde, qui serait décédée, à ce moment-là, tu ne devrais pas prendre la Sainte-Cène. Donc, on t'invite vraiment à te préparer pour demain. Au niveau technique, ayez un peu de pain. Est-ce que ça doit être du pain sans levain? Je ne suis pas aussi puriste que ça, mais si vous avez des crackers, si vous avez du matzo, pour ceux qui sont en ville et qui auraient peut-être ce genre de griotine-là, donc du matzo, du pain, du pita, prenez du pain. Et bien sûr, jus de raisin ou vin. Donc, est-ce qu'on peut prendre du coca? Je suppose que faute de... il y a des endroits, effectivement, où on ne peut pas avoir de jus de raisin, où il pourrait effectivement y avoir cette option-là. Mais je crois que pour nous tous qui sommes en Occident, il doit être possible d'avoir du jus de raisin ou du vin à notre portée. Donc, soit vous allez vous-même au dépanneur, et je suis sûr que vous allez en trouver. Si vous êtes à mobilité réduite, vous avez certainement... un proche, un fils, une fille, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, si vous êtes avec un plâtre à la maison et vous ne pouvez pas sortir, assurément quelqu'un peut aller acheter un peu de jus de raisin et du pain pour vous. Donc, on vous invite à vous préparer pour demain. Donc, ça sera à 23h15. Et je vous le dis d'avance, je serai là vendredi matin. Malgré qu'on se couche tard, je serai là vendredi matin à 8h18. J'appuierai sur le bouton démarrer la diffusion pour être avec vous pour cette toute première bénédiction matinale de l'année 2021. Donc, on a trois rendez-vous qui viennent. On a donc la bénédiction matinale demain matin, le repas du Seigneur et la prière de bénédiction à 23h15. Et par la suite, bien entendu, la bénédiction matinale du 1er janvier 2021. Ce soir, vous avez rendez-vous avec le pasteur Sergio, dernière étude biblique de cette année avec le pasteur Sergio. Donc, on vous invite à être là pour poursuivre cette étude avec notre bien-aimé. Alors, sur ce, encore une fois, désolé du laps de temps en début de séance. Des problèmes techniques, on va espérer que demain on n'aura pas ces petits tracas. Que Dieu vous bénisse ce soir avec le pasteur Sergio, 19h, et demain matin, une autre bénédiction matinale à 8h30. Alors que Dieu vous bénisse, au revoir tout le monde.